Vous écoutez Radio FMR. Nous sommes le samedi 6 octobre 2012. Nos programmes pour cet après-midi à 13h30 du sport. Les résultats sportifs en direct. Eh ben non, pas du sport aujourd'hui. À 15h du reggae avec Jeannot Dead. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le magazine pour enfants que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Laisse-moi deviner, t'as pas prévu chronique?
Non, évidemment.
Évidemment, sinon ça aurait été très simple. Heureusement, il est là pour faire un bon public de télévision. Je sais que tu peux le faire.
Tape dans tes mains, c'est pas difficile.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Dastage. Et la participation exceptionnelle de JB.
Avec le rôle de JB qui sera pris par quelqu'un d'autre cette semaine. Bonjour et bienvenue à tous. Excusez-nous pour les petits problèmes de réglage, hein, comme d'habitude.
Oui.
Un petit peu à la volée.
Oula.
Je vais te retirer de la couille. Là, tu en as un peu.
Ça va.
Je vais te retirer du gosse, ça. Et voilà.
Oui. Et oui, parce que c'est une spéciale mioche aujourd'hui.
Mioche, ça sent le gars qui en a pas. Non, une spéciale enfant, on dit.
Oui, parce que c'est vrai que j'en ai pas. Donc, du coup.
T'as pas de gosse? Pas de... Ah, des gosses. Ah, mais pas les québécoises.
Voilà.
D'accord.
Du coup, c'est surtout Ultimatum, hein, de toute façon, qui est rédacteur en chef de l'émission aujourd'hui. Et du sport, du coup, qui lui en a trop, a décidé, non, désolé, moi je passe. Donc, il n'est pas là aujourd'hui. Voilà, c'est un peu comme ça. Au programme aujourd'hui, on aura de la BD pour enfants, une adaptation ciné par rapport à ce qu'on a déjà parlé, d'un cinéaste pour enfants, et aussi de plein d'autres choses. Mais on va peut-être
Mais ceci dit, je tourne ma tête et je dis « Ah bah tiens, Benoît ah, !»«
Bijour !»
Et oui.
Ça va bien ?
Ça va, ça va.
Il fait le rôle de JB.
Ah, je vais essayer de remplacer, mais bon, je reconnais que JB fait très bien son rôle.
Allez, blague complètement à part. Comment saboter la préparation d'une émission ? Il suffit de présenter à Ultimatum une application qui s'appelle Manga Photo. Même 30 secondes avant le direct, qui me fait attends, mais je te montre comment et tout. Ce qui n'explique pas le retard, mais il a contribué.
Cette photographie, là.
Donc, alors, tout le problème, c'est que l'application en question, qui est éditée par des Japonais, l'interface est en japonais. N'est disponible que sur les appareils à la pomme et encore uniquement sur iPhone. Les applications sur tablette vont arriver et une version Android théoriquement aussi ce mois-ci. Mais en tout cas, elle fait beaucoup kiffer et là il l'essaie. Donc en fait, on prend une photo avec et ça fait des trames, ça fait du détourage. On peut rajouter du texte à voler, des lignes de fuite et tout ça. Ça a un rendu qui a l'air de vraiment être fabuleux, quoi. Ah oui, non, mais
c'est magnifique.
Ah, mais c'est impressionnant. C'est Manga Studio en fait pour téléphone portable à partir
Attends,
de.
Attends, je
de
change la trame là pour voir ce que ça donne avec des cœurs de petites filles.
et il va envoyer ça, il va l'uploader et on va faire suivre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, pas mal de choses à signaler puisqu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'auteurs en séance de dédicace, excusez-moi, je vais y arriver, avec Tony Valente, dessinateur de Speeds Angels. Le premier tome s'appelle Jour J et vient de sortir chez Soleil, c'est de la BD pour enfants, scénariste de Didier Tarquin, colorisé par Pop, on a déjà eu sur cette interview. C'est à partir de 16h tout à l'heure à la librairie Terre de Légende. Samedi 6, Céline Wagner présente Tangente, c'est aux éditions Les Ronds dans l'eau, et ça c'est plus de la littérature, si je me trompe, c'est à la librairie des Petits Ruisseaux. Mais aussi aujourd'hui et demain, c'est le festival du livre de Gaillac. Le thème c'est Enquête 2, et parmi la quarantaine d'auteurs qui sont sur place, notamment Accès Littérature, mais aussi Littérature Jeunesse avec un très fort contingent. Il y a aussi des auteurs de bande dessinée avec Jean-Baptiste qui a dessiné La Gare de Sambre. Il a repris la série d'Isler. Il a fait aussi Notre-Dame chez Glénat. Il y a Christophe Beck, auteur, dessinateur de Zéro Absolu, Bunker, Carthago et le spin-off Carthago Adventures qui est en cours de parution actuellement aux Humanoïdes Associés. Pierre Druille qui fait partie des créateurs des Requins Marteaux. Nico Henrichon qu'on ne présente plus pour The Pride of Baghdad et qui fait maintenant pas mal de choses en France. Frisco qui est l'auteur d'un polar politique qui s'appelle Élysée République. Maliki.
C'est Suyon plutôt qui va y aller.
Et Maliki, bon, je vous laisse deviner hein, ce qu'elle fait. C'est bien évidemment son blog et bientôt le prochain tome. Je ne sais pas, Thomas, tu peux peut-être me le dire.
Non, oui, pour bientôt, ce sera octobre-novembre, là, courant du mois ou le mois prochain. En tout cas, sur les réseaux sociaux, Suyon a déjà posté une photo de Gaillac ce matin du pont. On voit qu'il fait très très beau là-bas.
Ouais,
il fait aussi beau qu'ici. Je peux vous dire que hier, il a fait 30 degrés à Toulouse, donc quand même. On a pu en profiter pour sécher le linge. Emmanuel Moineau, lui, vient de sortir aux éditions Futuropolis. Pierre Goldman, La vie d'un autre, et donc lui aussi l'État Gaillac. Et Christophe Sénégas, ça c'est uniquement pour les auteurs de bande dessinée. Il y a les auteurs régionaux, il y a les auteurs littérature, il y a les espagnols, il y a un fort contingent espagnol, il y a un contingent des berbères et tout ça qui sont venus. Donc tout cela, c'est au Salon du Livre de Gaillac. C'est aujourd'hui et demain, c'est 10h à 20h. L'accès est libre, gratuite, et ce serait dommage de ne pas en profiter parce que franchement, c'est très très beau. Par contre, si vous y allez le dimanche et que vous comptez manger sur place dans un resto, bonne chance parce qu'en général, ils sont fermés.
Ah, ça rappelle des mauvais souvenirs, ça.
Ah putain. Attends, le festival a lieu aujourd'hui, mais ils se sont plottés. Il faudrait qu'ils le fassent fin novembre.
Non, mais heureusement qu'ils le font aujourd'hui parce qu'on peut pique-niquer, tu vois. Ça me rappelle une interview qu'on avait fait avec un organisateur de festival qui disait combien il a chié pour avoir les restaurateurs qui ouvrent le dimanche. Mais ça, c'est un petit peu à part. Spécial mioche aujourd'hui avec dans la revue de presse le nouveau Psychopathe pour bien rigoler. Donc c'est le numéro 246, c'est un mensuel qui sort en kiosque 4,90€, pas de pub. Octobre 2012 avec une flopée d'auteurs, Olivier K et tous les autres. Il y a aussi Noël Godin qui a fait une séance pour enfants d'ailleurs lors du festival du film Groslandais à Toulouse. Lors de la première édition qui a eu lieu il y a 15 jours. Et c'est sur le mariage gay, d'accord. Ok, pardon. Donc en fait, il faut vous expliquer, les enfants, la couverture en une. C'est un monsieur qui arrive en costume dans une pièce et il y a deux monsieur qui sont dans un lit. Et il y en a un qui dit, le monsieur qui est en costume qui dit « Ciel, mon mari !» et les deux monsieur qui sont dans le lit qui disent, l'un qui dit « Ciel, mon mari !» et l'autre « Ciel, son mari !» Alors c'est très drôle. Mais je crois que ça tombe complètement à plat aujourd'hui, voilà. Alors le nom du développeur, l'application est à chier, super développeur, franchement ça n'inspire pas confiance, mais franchement le logiciel manga-photo, il est pas mal, et Thomas est en train d'uploader, et je ne sais pas, on commence de suite par l'interview, ou... puisque là c'est toi le rédacteur en chef, ou on
fait... Monsieur le rédacteur ensuite... en chef, c'est vous qui...
On fait quoi, l'interview?
Non, c'est lui qui a tout préparé, donc...
On fait l'interview avant les chroniques, ouais, on va faire l'interview, comme ça.
Ou alors on fait les chroniques BD, et ensuite l'interview pour enchaîner sur le cinéma.
Allez, on va faire comme ça.
Soyons riches, soyons peinards et cool.
Attends, il faut que je teste d'autres trames. Ah non, pardon. Alors. We'll be right back.
On peut y aller, en fait c'est l'enchaînement du morceau sur le morceau suivant, donc la première fond sonore. Donc je pense qu'on va y aller un petit peu. Waouh.
Et oui, on va commencer avec de la mythologie grecque, ou comment réviser sa mythologie en s'amusant, et pour les tout petits, enfin les tout petits, les plus jeunes en tout cas. Donc Prunel, tome 2, ça s'appelle Le Réveil des Géants, c'est par Portail Kernel et Kernel, donc je pense qu'ils sont en couple. Chez Ankama, c'est dans la collection Étincelle, donc la collection pour les plus jeunes. Les trois moires sont des créatures toutes puissantes qui décident du destin des hommes en tissant les fils de la vie. Ce sont aussi elles qui révèlent leur destin aux futures divinités. En cette année, la promo contient du potentiel, même si les sales caractères et les cancres se font particulièrement remarquer. Dans cette classe se trouve Prunelle, petite cyclope promise à un destin de grossier forgeron. Mais son vœu le plus cher serait, au contraire, de devenir une muse. Plutôt mal barré. Mais en compagnie de sa copine Iris, en pleine épreuve du destin, Prunel s'embarque dans une quête de dupe qui pourrait à jamais sceller l'avenir des hommes et des dieux et ouvrir grandes les portes de l'Olympe aux redoutables géants. Alors voilà, donc le concept, donc c'est, ce sont les dieux que tout le monde connaît, mais en petite culotte, ils sont à l'école. Enfin, en petite culotte, oula, excusez-moi, en culotte courte, voilà, pas en petite culotte, voilà, y a rien de sexy. Donc ils font leur classe, et là ils vont passer le grand examen pour savoir de quoi ils vont être les dieux, etc.
Pauvre Hera.
Oui, donc on voit. Donc moi, ce que j'ai bien aimé dans cette BD, c'est que c'est super frais, les couleurs, ça pète de partout. Et puis finalement, je pense que pour donner le goût de la mythologie aux gamins, c'est peut-être mieux de passer par là plutôt que de par les cours un peu lourds de latin.
Des chevaliers du zodiaque, très mal animés.
Voilà, par exemple.
Rappelle-moi le mug que tu as à côté de toi.
Oui, tout à fait. Alors, c'est pas un mug, c'est un contenant pour boissons de sportifs. Donc Saint Seiya, The Lost Canvas. Donc voilà, si tu veux faire du sport et boire ta boisson Powerade, donc tu prends la boisson, tu te la mets dedans. Et si tu es très très fier d'avoir le chevalier de bronze Tenma à côté de toi pour te soutenir dans tes efforts.
Du sport si tu nous écoutes. Voilà, ok. Bref, une belle interruption de chronique, hein, donc, à mon habitude. Donc peut-être couper les rires derrière.
Donc là c'est marrant parce que tu vois Héraclès, Apollon, Aphrodite quand ils sont encore des écoliers, c'est parfois des petits chenapans qui arpentent le chemin de l'aventure dans une ambiance de couleurs saturées. Donc voilà, moi j'ai bien aimé étant un peu fan de mythologie à la base, et puis à la fin c'est marrant parce qu'il y a aussi des pages un peu plus culturelles où on te dit quelle est la différence entre les géants, les titans. Alors l'auteur il dit oui, on s'y perd un peu dans tout ça, on va vous expliquer. Donc c'est rigolo. Le trait est assez épais, mais en fait c'est assez dense finalement, les compositions. Benoît est en train de les feuilleter, ouais. Par exemple, donc t'as plein d'univers colorés qui sont différents. À un moment donné, ils sont dans la forêt des Amazones. T'as un super rendu la forêt des Amazones dans des verts, mais qui pètent. C'est assez débridé, tu vois que c'est des petits gamins qui sont un peu concernés par leur destin quand même, parce qu'ils vont être jusqu'à pour l'éternité dieu du machin, déesse de la beauté, ou voilà. Donc c'est pas une épreuve du destin à prendre à la légère, c'est de la mythologie telle que les adultes se peuvent se la visualiser, mais pour les plus jeunes, voilà, pour une initiation, très très bien.
C'est vrai que ça donne vraiment une idée des... Bon, si on connaît pas la mythologie, c'est vrai qu'avec ça, on a vraiment, sur les quelques planches que j'ai regardées, c'est vrai qu'on a déjà les informations que les différents personnages protagonistes vont devenir, Apollon, Apollon, Aphrodite, Artemis ou le reste. Dommage qu'on n'ait pas toute la galerie, mais bon, c'est déjà pas mal. On a déjà le principal. Mais c'est vrai que bon, On a aussi toute l'imagerie, par exemple, sur les titans qui sont grands, très grands. Ça, c'est une information que certains disent ils sont taille humaine, d'autres taille. Faut prendre deux étages au point.
Plus près du micro, je te prie.
Oui, pardon, voilà. D'avoir du mal. Non, mais c'est vrai qu'on a au moins avec ça. T'as le tome 1 ? Le tome 1 est
accepté. Le tome 1, je ne l'avais pas reçu. C'était le début de Prunelle. Voilà. Elle prenait conscience que c'était une cyclope au début. Et là, donc, c'est le début de l'épreuve.
Ça me fait juste rire parce que Prunelle, pour moi, ça me fait penser au secrétaire de rédaction. Voilà, exactement, de Gaston Lagaffe.
Alors là, en l'occurrence, Prunelle, parce que Prunelle Dieu, et comme elle a qu'un seul œil, voilà. Mmh. Et d'ailleurs, elle met sa frange par-dessus faire croire qu'elle en a deux qui est cachée. Voilà.
C'est pas mal. J'adore dans les pages de garde. Oui, le petit autocollant, ce livre appartient à. Oh, c'est mignon.
Ce livre appartient à, et surtout, t'as une superbe carte du monde tel que les Grecs le connaissaient, c'est-à-dire c'est toute la Grèce ainsi que un peu les côtes italiennes, ainsi que les côtes italiennes. Et surtout, tu as exactement les régions
des lieux mythologiques en question.
T'as Olympe,
Par exemple, il manque l'Atlas qui est quand même là où est actuellement l'Algérie et tout ça. Mais,
voilà.
Mais après, oui, c'est franchement super sympa.
C'est super sympa, surtout pour apprendre aux nos gamins.
Et puis pour se familiariser déjà avec des dieux, avec les noms, et comme ça, après, ça leur évoquera plus tard quelque chose à l'école.
Au moins en sixième.
Ouais. Je rappelle les références quand même. Prunelle, tome 2, c'est Le Réveil des Géants. Par Portail Kernel et Kernel dans la collection Étincelle d'Ankama. Alors on enchaîne avec toujours un autre album d'Ankama et toujours dans la collection Étincelle, et ça s'appelle cette fois-ci Love, et c'est le tome 2. J'avais chroniqué le tome 1 sur cette antenne, cette fois-ci après le tigre, ça c'est le renard. Par Brémo et Bertolucci. Alors le concept de cette série là, c'est que il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de texte. C'est une plongée dans le.
Bah si, il y a des bulles. Enfin, c'est dans la rivière, mais bon.
Il y a pas de phylactère.
Pardon.
Si tu vas sur ce terrain là. Alors, ça se passe sur une île volcanique, en fait. Le règne animal est confronté aux éléments qui sont déchaînés. Une lutte de tous les instants pour asseoir sa domination, nourrir les siens ou tout simplement pour survivre en plein chaos. Et donc, on plonge ainsi dans les méandres de la lutte pour la survie des animaux. Et donc, après avoir effectivement suivi le tigre dans le premier tome, cette fois-ci, c'est le renard. Donc, c'est plus un animal qui a beaucoup plus de prédateurs que le tigre. Et donc là, il y a un peu plus de...
C'est Fashion Week. Hein.
Voilà, et...
Obligé, celle-là. Voilà, bon.
Et donc là, il y a un surplus de tension au niveau du scénario, puisque ça se passe sur une île volcanique. Et donc, qui dit volcanique, évidemment, le volcan se réveille en plein tome. Et alors... Si vous aviez le cul troué par le premier tome, ça c'est pareil, c'est-à-dire que t'as des ambiances qui sont à tomber par terre, découpage, des travaux de rendu à montrer dans toutes les écoles d'art graphique. C'est plus à voir comme un artbook en art séquentiel plutôt que d'une vraie BD avec il y a quand même une évolution avec un personnage qu'on suit avec des enjeux, mais là Benoît il est en train de regarder des cases qui sont sur une planche entière par exemple sous l'eau qui sont vraiment
c'est surtout qu'il arrive à marier c'est sur l'île est en hiver, donc ça arrive à marier le blanc de l'hiver avec le rouge du volcan qui explose, ce qui est tu passes d'une page à l'autre, tu passes d'une page qui est entièrement blanche où ça se passe dans l'hiver et autres, à une page entièrement rouge où justement c'est parce que on a le rappel qu'il y a ce putain de volcan qui est en train d'exploser. Et franchement, c'est vrai que l'absence de bulles ne me gêne pas.
Oui, c'est ça. Et en plus, tu peux le relire ensuite, puisque tu connais l'histoire, donc tu la relis pour après que tu détaches de l'histoire, et donc après tu te penches un peu plus sur le graphisme. Mmh. Alors le concept aussi, c'est que ça suit l'évolution des saisons, puisque ça commence, je crois, à l'automne ou au printemps, et en fait ça finit après que le volcan soit passé. Donc c'est les bourgeons qui reviennent. Mais et en plus, tu vois le passage des saisons au niveau graphique.
Et surtout, tu vois c'est vrai, comme tu l'as dit, l'élément de survie. Tu vois les animaux, comment ils font avec leurs moyens. Enfin, oui. Je pense qu'il s'est très bien documenté là-dessus.
Là, on voit
ça mérite de passer sur Disney de nature, tu vois. C'est...
Oui. ça évoque vraiment l'aspect documentaire animalier, mais en BD avec un talent graphique derrière.
Disney nature, National Geographic, toutes ces chaînes au même Arte. Franchement, c'est vrai que c'est bien fait. En animation, je pense que ça doit. Si ça pouvait se faire. Franchement, même un petit sous-titrage dessous, ce serait du bonheur.
Pour les enfants.
Franchement, c'est vrai que.
Enfin, en tout cas, je pense que le rendu est un peu trop photoréaliste pour le mien, donc il y a 5 ans, mais un peu plus. Je pense que c'est pas mal, entre 5 et 8, je dirais. Vraiment, c'est tip top. D'ailleurs, Xavier est hypnotisé par le graphisme.
Ah, il est superbe.
Voilà, donc Love. Alors pourquoi ça s'appelle Love justement? Parce que c'est pas du tout une histoire d'amour. C'est parce que Love, ça touche à ce qui est le plus essentiel, c'est que les animaux ne sont pas animés par des buts de domination, de zizanie, d'amitié et tout. Ils sont juste là parce qu'ils ont des instincts primaires. Et donc, qu'est-ce qui se rapproche le plus de quelque chose qui est intangible? Donc c'est l'amour. C'est pour ça que ça s'appelle Love. Donc voilà, ce sont des personnages qui sont avant tout guidés par la survie, par protéger ses petits, par la recherche de nourriture et aussi défendre son territoire contre des congénères ou des prédateurs. Voilà, donc Love.
J'avais absolument pas tilté. Federico Bertolucci, ça me dit quelque chose. Je crois qu'il a bossé chez Disney justement.
Oui, il me semble, oui, que j'ai vu passer ça. Oui. Par Bremo et Bertolucci, c'est dans la collection Étincelle d'Ankama, donc une collection Étincelle qui est peu pourvu d'albums en niveau quantité par rapport aux autres collections d'Ankama, mais qui malgré tout avec par exemple le fabuleux le trop grand vide d'Alphonse Tabouret ou Anguille et Baldaquin et des petits albums comme ça dans la collection Étincelle qui fait vraiment son trou au sein de l'éditeur.
Ouais, je suis pas surpris, effectivement il avait bossé pendant au moins 5 ans, c'est bien ce qui me semblait, sur les bandes dessinées, sur Mickey Magazine et l'Hebdo Mini. Et après, il a fait partie de l'équipe de Witch. Il avait dessiné.
D'accord.
Et voilà. Ouais, donc ça me disait bien quelque chose. Voilà. Bertolucci, oui, tu m'étonnes que. Et il avait fait Monster Allergy aussi. Voilà. Et je crois qu'il avait fait que les deux premiers tomes.
Puis il a fait le film Le Dernier Empereur aussi.
Exact.
Ah oui. Ah
oui, non mais c'est...
Il est...
Non, je déconne. Voilà. Thomas déconné, nous a bien eu.
Voilà. Oui. Allez, on passe à la suite.
Je t'en prie, vas-y.
Je viens de me apercevoir que j'avais oublié d'imprimer ma chronique de Boulet. Bon, c'est pas grave. Donc, on passe au dernier tome de la série Notes de Boulet. Donc, c'est le tome 7 qui s'appelle Formica Punk. Et c'est un recueil, donc forcément, tiré de son blog bouletcorp.com qui regroupe les notes entre juillet 2010 et juillet 2011. Pourquoi Formica Punk, c'est dans la collection Shampoing de l'éditeur Delcourt. Et donc Formica Punk, c'est un strip vers la fin de l'album où Boulet explique qu'il va y avoir steampunk à partir de l'évolution technologique de l'époque victorienne, et il s'est demandé qu'est-ce que donnerait une science-fiction rétro à partir de la technologie des années 80. Donc tu le vois en train de, par exemple, télécharger Game of Thrones sur son Minitel, il joue à la console portable sur des tatous. Donc là on le voit là, le strip ici là. Voilà, en couleur.
Ah oui, d'accord. Là, c'est la fin, oui.
T'as encore le truc avec le Paris Concorde, Paris et New York avec Concorde à 1999.
Ah oui, c'est vrai, France Télécom, Minitel, 36 Torrent.
Voilà, donc Boulet qui continue évidemment son trip de éternel célibataire, geek, qui est obsédé par la chute des cheveux, le côté ventripotent, le côté qu'il n'est pas sportif, sa haine pour l'administratif, son côté parfois un poil dans la main pour faire le ménage ou la vaisselle, même s'il a un peu abandonné le côté raclette mutante, voilà. Il y a aussi des bandes dessinées qui sont des petits strips BD qu'il a fait en pixel art. Il y a inévitablement toujours ce fameux tango avec la mort pour chaque anniversaire, chaque année, qu'il a agrémenté son recueil de quelques illustrations comme ça pour meubler aussi.
Ouais, alors, ce qu'il fait sur son Flickr, si je me trompe.
Sur son Flickr, son Tumblr.
Ouais, il a un Tumblr, je crois aussi qu'au bout d'un moment il était sur DeviantArt, je sais plus.
Non, pas DeviantArt.
Non, je l'ai pas repéré moi sur DeviantArt.
Sinon, bon, il a mis aussi sur Facebook, voilà. Et sinon, alors le principe de chaque recueil de notes, donc c'est qu'il trouve un fil rouge avec 40 planches de BD inédites. Alors après, des thèmes comme le festival BD dans un patelin pluvieux, il y a eu la fin du monde, il y a eu le corps humain, vulgarisation scientifique, le rêve. Et là, cette fois-ci, donc c'est Formica Punk, donc c'est sur les univers parallèles. Qu'est-ce qui s'est passé si, voilà, les uchronies, est-ce que les univers sont plus parallèles, perpendiculaires, est-ce que c'est dans le même univers, il y a plusieurs planètes, qu'est-ce qui serait passé si si j'avais pas poursuivi mes études aux arts déco, je serais peut-être papa de 3 enfants, voilà. Donc il y a plein de comme ça des considérations où il réfléchit un petit peu sur les grands bouleversements dans sa vie, par exemple, parce qu'il s'achète un canapé, ça veut dire qu'il est sédentaire, il ne déménage plus tous les 2 ans, par exemple. Alors le petit côté déceptif de l'album, c'est que tu te rends compte que là on est déjà au 7e tome, qu'on a plus ou moins quand même fait le tour de ses obsessions, de ses thématiques préférées dans la première moitié de ses tomes. Là, on voit que il a trouvé son style, il a trouvé son ton, il a trouvé son public. C'est dur maintenant de se renouveler, on le voit.
C'est pour ça qu'il parlait de s'arrêter là, normalement.
Voilà, il va s'arrêter là au niveau des adaptations de notes. Je crois qu'il y a encore le dernier, ce sera l'an prochain.
Ouais.
Mais là, il va arrêter ce rythme-là. C'est vrai qu'on perd le côté joueur d'expérimentation au début, où il faisait des strips avec du crayon de couleur, avec du feutre. Où il avait pas encore trouvé son style, donc ça partait dans tous les sens, c'était des petites cases, des moyennes cases, il avait pas trop maîtrisé encore la grosseur de son texte, par exemple. C'était même, enfin, pour moi, pour ma part, c'était plus intéressant. Là, c'est vrai que tous les strips BD ont tendance un petit peu à se ressembler au niveau du style. Après, on voit que c'est quand même un auteur qui a quand même eu du recul sur ses propres thèmes. Par exemple, c'est quelqu'un qui a fait sa signature sur ce fameux tango avec la mort un peu mélancolique à chaque anniversaire. Et là, il joue avec son public, il dit, ben en fait, il y a la mort qui se pointe pour faire son tango habituel, et puis il dit, ouais, ben non, pas cette année, cette année je vis très bien. En fait, il ignore complètement la mort. Il dit non, mais je suis là. Ah non, mais pardon, parce qu'il y a quelqu'un sur Twitter, il m'a fait rire. Et oui, non, tu disais. Non, mais j'écoute sinon. Allez, je débranche le téléphone. Allez, je t'écoute. Et puis finalement, il reçoit un coup de fil. Bon, ben salut, moi je vais à une soirée. La mort à la fin, je peux venir. Ah ben non, tu vas casser l'ambiance.
Pas mal.
Donc voilà. Donc, on voit que l'autre Boulet a un petit peu de recul. C'est aussi, ça coïncide aussi avec l'année dernière. Souvenez-vous, il commençait à un peu se mettre en scène aussi. Il filmait ses carnets en work in progress.
Ouais.
Mais il avait aussi dit quand il avait pris cette décision, enfin quand il avait annoncé cette décision d'arrêter là, l'adaptation en BD, ce qui lui manquait, c'était revenir à un côté expérimental son blog, à quelque chose de complètement différent où il pouvait faire plein de choses et vraiment à partir de là se libérer complètement des contraintes éditoriales. Et on sentait vraiment justement qu'il y avait le train-train de la trop grande facilité de la contrainte éditoriale,
oui,
et la planche à billes entre guillemets.
Ah ben là c'est sûr qu'il peut, il a arrêté de faire ses planches de BD en format cartonné. Maintenant il sait qu'il peut, s'il peut continuer pendant 15 tomes encore, les gens seront là pour les acheter, donc voilà.
Mais t'as aussi le fait que sur son blog BD maintenant il est libre de son format, c'est-à-dire que c'est vraiment on peut avoir des histoires qui tiennent sur non pas l'équivalent du format papier, mais vraiment sur des dizaines et des dizaines de pages, enfin
le
scrolling là maintenant.
Il y a pas que le scrolling, il y a une chose qu'on oublie et qu'on ne pourra pas retrouver dans la BD comme ça, c'est que depuis la nouvelle version de son blog, c'est-à-dire depuis 6 mois où il a abandonné la version flash où maintenant sont les images standards, etc., pour que ça passe partout, il y a un texte. Il y a un texte caché dans les images que l'on a au survol. Et des fois, on apprend énormément
de choses. Ouais.
Ouais, c'est pas inintéressant.
Ça, tu le trouveras pas sur la sur
ouais, ça, je l'ai découvert récemment, la semaine dernière d'ailleurs, qu'on pouvait y aller.
Moi, c'est le jeu depuis que j'ai vu ça, depuis la nouvelle version. Donc, waouh.
Ah non, moi, c'était juste parce que j'avais eu la connexion qui était coupée. C'était en plein chargement de ces images. Et j'ai vu le texte alternatif, ce qui est utilisé par ces infobulles. J'étais là. Ah, mais il y a ça maintenant!
Donc voilà, donc le 7e tome de notes pour les fans de Boulet et puis les autres aussi, parce que quand même c'est quand même vachement reposant d'avoir. En plus, c'est un format shampoing qui est beaucoup consacré aux adaptations BD de blog. Il y a aussi les adaptations du blog de Trondheim. Il y avait les Chicou-Chicou sur ce format aussi. Et c'est un papier qui est assez granuleux, qui rappelle un peu les carnets de dessin. Et c'est très, très, très agréable là. Parce que t'as pas un côté plastifié des pages d'albums BD cartonnés. T'as quand même.
Mais c'est pas verni. Donc le rendu est beaucoup plus brut finalement.
Oui,
moins contrasté.
T'as une texture de papier par-dessus. Et t'as aussi le toucher aussi. C'est moins moins lisse.
C'est une réelle patine, quoi.
C'est une matérialité qui fait vraiment plaisir. Donc voilà, tome 7 de notes dans la collection Shampoing de chez Delcourt. Et donc la couverture, cette fois-ci, c'est Boulé face à un écran géant qui est en train de. À la telle Tom Cruise dans Minority Report, en train de travailler sur son image au stylé graphique sur Photoshop.
Ouais.
Avec des écrans
lumineux
virtuels. Voilà.
Tactile en hologramme, tu vas avoir du mal.
Si tu remarques bien, c'est son stylo de tablette graphique est directement relié à l'ordi.
Via un câble.
Alors que maintenant, la plupart de ces stylos sont sans fil.
Oui, bah.
Il n'y a pas que ça.
Et derrière, t'as les commentateurs qui sont en tenue années 80 quand même, d'ailleurs. De dos, en train de commenter. Voilà.
Il y a toujours une progression et tout ça. Si je me souviens bien, oui, l'interview de Boulet qu'on avait faite en 2007, si je me trompe, qu'on avait diffusé dans la spéciale. Non, c'était 2008, pardon.
2000, je sais pas si c'était pas 2005.
Non.
6, 2006.
Ah, pas. J'en suis sûr. J'en suis sûr parce que j'ai vérifié, puisqu'on a le lien vers l'émission et donc cette spéciale steampunk. Heureusement, vous savez qu'on est donc disponible aussi en podcast et sur les autoradios qui ont la fonction autolink. Désormais, vous pouvez télécharger donc pour avoir le lien direct vers l'émission en question. Attention, QR code. Nightmare on Wax, 70s, 80s, extrait l'album Mind Elevation.
Pour toi, Bouletto.
Hey, hey, get some violence on the TV. Broken down on news round while eating toast. Toppers watching coppers get beat down. Church discos and trips with a play scheme. Dancing in the sky, kissing the girl of my dreams. My temper being those two-tone stay fresh. Money in my car, but one step beyond, yes. Lending to a friend, never got it back. Dear Jim, could you fix it for me? Remember that. Just a 70s baby, early 80s child. Reminiscing about the days in a brick backyard. Just a 70s baby, early 80s child. Reminiscing about the days and you think time's up. Well, let me tell you now, whoa, whoa, a wicked witch was in power. And oh my God, she did devour. Cast a spell called depression, made a living hell. Turn man against man, forgot the boys and girls we had. No future, home computer, had to make room with what we had. Knock a door, run in the hand-me-down gowns. Cracker Jack, I run around. Sit far, Muppet Joe, Electro on the radio. One turn it up, it's a new thing, yeah. Now all I want is I text with fat faces. Got the next best thing, started scratching and breaking. Snatch your pack, some battery by the stack to keep the boom box from going flat. Dick Cork winning over the store with a performance kid. This place has never been so packed. Street left for a spotlight, couple bucks for a stage. And if you had a score to settle, you resolved it with your breaking. Not like now, they're using guns and bats. Robbing old folk, we don't need no more of that. Just a 70s baby, early 80s child. Reminiscing about the days in a brick backyard. Just a 70s baby, early 80s child. Reminiscing about the days and you think time's up. Hey, just a 70s baby, early 80s child. Reminiscing about the days in a brick backyard. Just a 70s baby, early 80s child. Reminiscing about the days and you think time's up.
Ça n'est pas une musique de merde. Nightmare on Wax, extrait de l'album Mind Elevation, 70s, 80s. Donc, un peu obligé avec le Formica Punk. Ah, qu'est-ce que vous croyez? Enfin bon.
Faites-moi plutôt le cœur des vierges.
Hein. Oh là là.
Allez, on va parler des petits enfants cette fois-ci avec un dessin animé.
Non, on reste dans les petits enfants, c'est une spéciale mioche.
Eh oui, un spécial mioche. Donc le petit Kirikou à présent, donc dont le papa était en visite à Toulouse au Cartoon Forum. C'était il y a combien ? C'était il y a 3 semaines à peu près.
On l'a interviewé le 14 septembre, donc c'était il y a 3 semaines, oui.
Voilà. Donc le 14 septembre, nous étions au Cartoon Forum pour rencontrer Monsieur Michel Oslo, qui n'a pas fait que les Kirikou, il a fait Prince et Princesse, Azur et Asmar, Les Contes de la Nuit, voilà.
Et il a même adapté les dessins, les strips de Benjamin Rabier, c'était son premier boulot en tant que réalisateur d'ailleurs, dans les années 70.
Oui. Donc Michel Oslo, donc a bien voulu revenir à notre micro sur la jeunesse de Kirikou. Nous étions un peu pris par le temps, nous avons beaucoup de choses à lui demander. Donc on a pu lui demander seulement 50% de nos questions, mais quand même c'était une rencontre qui comptait. Donc voilà, voici l'interview de Michel Oslo.
Michel Oslo, bonjour.
Bonjour.
Alors, vos choix esthétiques radicaux et vos cadrages découlent de votre manque de moyens à vos débuts, où vos personnages étaient de profil et en silhouette. Depuis, c'est devenu votre marque de fabrique. Est-ce que vous comptez vous en détacher à terme, ou est-ce que vous voulez continuer dans ce filon-là ?
Je n'ai pas de parti pris. Je ne veux pas faire du Michel Oslo, entre guillemets. Je pense que ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires, de vous intéresser, si possible de vous faire du bien, de vous décontracter et peut-être de vous donner encore plus de dignité. Mais un aspect je ne tiens à aucun aspect graphique. C'est vrai que le début, ce que je comprends pour mon style, c'est l'absence d'argent. Mais quand j'avais un peu d'argent et que je faisais ces choses simples en petits bouts de papier découpés, ça me plaisait beaucoup. C'est un moment que je ne rejette pas du tout, que j'ai tant envie de reprendre, faire des choses archi simples, très peu d'argent, et arriver quand même à transmettre des belles choses. Ce que je ne veux pas faire, c'est de la 3D réaliste, comme font en général les Américains, très réaliste. Il ne manque pas un poil à la souris ou à la princesse, et dans les dossiers de presse, on dit le nombre de poils. Ça ne m'intéresse pas du tout, et faire les éclairages réalistes, les reflets de reflets, ça je ne veux pas le faire, je ne le ferai pas, et je veux toujours rester assez léger. Je suis un conteur et je joue avec le public. Je veux que le public soit intelligent avec moi et invente avec moi, et je veux pas que mes images soient du pré-mâché, du sur-mâché. Il faut que le public mâche un peu.
Alors, vos orgies de couleurs et vos motifs sur les arrière-plans qui sont très 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 chargés, très marquants, même parfois presque, on se demande si ça va être lisible en animation, et pourtant il n'y a jamais de problème de lisibilité sur vos décors. Est-ce que ce dosage, vous avez mis du temps à le trouver ?
J'ai été conscient du danger de faire des décors très riches et très compliqués qui cacheraient les personnages. À partir du moment où j'ai défini le problème éventuel, les solutions étaient immédiates. C'est très simple. Et avec l'animation, et en plus l'animation par ordinateur, tout de suite, si je veux que tel personnage se détache, je le fais se détacher, soit qu'il est très sombre sur fond clair, ou très clair sur fond sombre, ou très rouge sur fond vert. Il faut simplement être conscient et gérer la chose. Il n'y a aucune difficulté. Mais en effet, j'aime bien des décors riches. J'aime bien les deux choses. J'aime bien l'austérité, une pureté huguenote, et j'aime bien aussi le baroque. Et avec l'arrivée dans les techniques auxquelles j'ai droit, l'arrivée de l'informatique, de la palette graphique numérique, je m'offre quasiment tout le temps des orgies. Et voilà, j'aime ça.
Est-ce que c'est pas aussi un moyen de tester le rendu, de faire un étalonnage finalement, comme ce qu'avait fait à une autre époque George Lucas avec THX ?
Bah, je sais pas ce qu'il a fait George Lucas avec THX. Et il faisait quoi ?
Bah, en fait, c'était pour raconter un peu rapidement, il était tellement déçu de comment a été exploité son premier film THX 1138 qu'il a créé justement des bobines de test pour distribuer ses films uniquement là où il estimait que son film aurait un rendu correct.
Oui, non, c'est pas mon domaine. Je suis un pauvre menuisier qui fait bien son boulot, et puis advienne que pourra aux chaises et aux tables qu'il a faites, mais il les a bien faites et elles vont pas s'écrouler.
Alors vos scènes avec vos personnages de profil et votre utilisation de travelling horizontaux font aussi penser à un autre média qui est le jeu vidéo avec des scrolling horizontaux. Est-ce que c'est une parenté dont vous, c'est un média dont vous sentez proche? Là d'ailleurs on vous a imprimé un petit jeu qui s'appelle Patapon. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne sais pas s'il est sorti après le premier Kirikou, s'ils sont inspirés de votre travail. En tout cas, est-ce que vous reconnaissez une filiation? Est-ce que vous inspirez de ce média-là?
Oui, c'est joli, ça me plaît bien. Alors, la simplicité des animations, des positions de personnages, des positions de caméra vient au départ de l'impossibilité de faire autrement. Mais maintenant, bon, je fais des choses un peu plus compliquées, en particulier dans le dernier Kirikou, mais ça se voit pas trop. Mais je reste simple parce que je veux être compréhensible immédiatement. Et que ce soit en animation, mais aussi en vue réelle, très souvent, il y a l'opérateur qui veut montrer qu'il est utile à quelque chose et qui change le placement de la caméra sans arrêt. Et il y a un moment d'incompréhension dans notre cerveau. Le personnage qui était à gauche, tout d'un coup, il est à droite. Donc il faut quand même analyser que l'homme de droite est en fait l'homme de gauche. Moi, je refuse ça après. C'est une décision après réflexion. Je fais des mises en scène extrêmement simples pour que, à la fraction de seconde, tout le monde comprenne. Et s'il y a un personnage à gauche, il sera toujours à gauche. Et même s'il est en gros plan, plein écran, il reste à gauche. Ce qui fait qu'on comprend tout. S'il est à droite, il est un peu à droite. S'il est petit, il est un peu au ras de l'écran. S'il est grand, on a du mal à voir son front. Tout ça pour des très gros plans. Et en gros, c'est toujours comme ça. Et on comprend tout de suite. Et je suis ahuri aussi par la jeunesse de mes spectateurs. Je n'ai jamais spécialement pensé à des enfants. Je sais que comme je fais du dessin animé, il y aura des enfants dans la salle. Et je fais attention à ne pas leur faire de mal. Mais je n'ai pas fait mes films pour les petits-enfants. Et les petits-enfants comprennent. Mais au-delà de ce que j'imaginais.
Justement, on en parle de votre public. Pourquoi avoir fait 3 Kirikou? Est-ce que c'est parce que vous avez vendu votre âme au dieu profit ou est-ce que vous avez eu la faiblesse de céder devant vos fans?
C'est la deuxième version et c'est peut-être pas une faiblesse. Il est certain que quand j'ai fait Kirikou et la sorcière, je n'avais aucune intention de faire la moindre suite. C'était même pas la peine de discuter. Et puis c'est arrivé petit à petit. Des pressions du producteur et des distributeurs, mais il y a vraiment la pression du public, réellement, des gens qui me parlent, des gens qui m'écrivent et qui le demandent et qui disent clairement « tu nous as fait du bien, tu dois continuer ». Et quelquefois je le demande à des adultes, mais est-ce que c'est normal que j'en fasse un autre? Et ils me disent « oui, on te le demande, fais-en un autre ». Et ça vient d'un peu partout. Bon, ça vient pas mal d'Afrique. Des Européens d'origine africaine qui me disent mais tu nous as fait tellement de bien. Tu peux pas arrêter. Alors, on te le demande. Et au bout d'un moment, c'est d'abord émouvant. Et j'ai de la chance de vivre ça. Et bien que ça ne soit pas ma pente de faire une suite à Kirikou. Au bout d'un moment, je suis lassé de dire non et je dis oui. Et une fois que j'ai dit oui, je me donne totalement comme pour le premier. Mais c'est vrai.
Elle va jamais s'arrêter, cette demande du public, elle va jamais s'arrêter.
Elle va pour le moment jamais s'arrêter. Donc mon prochain film n'a aucune référence avec Kirikou. Je ne désire pas en faire d'autres. Mais maintenant je sais pas, parce que au début, après le succès de Kirikou la sorcière, quand on me demandait est-ce que vous ferez un Kirikou 2, je haussais les épaules, c'était même pas la peine de répondre. Voilà comment c'est arrivé, mais c'est quand même une histoire d'amour, c'est pas tellement une histoire de succès, une histoire de commerce. Ceci étant dit, Je ne suis pas contre avoir un succès commercial. Ça nous fait du bien. Ça fait du bien à la profession. Le succès commercial de Kirikou et la sorcière a changé la vie des animateurs en France et aussi en Europe. Là, les gens de Forum Cartoon me l'ont dit. C'est pas qu'en France que ça a tout changé. Donc c'est aussi intéressant, le succès commercial. Mais c'est, tout ça, c'est mes tripes et mon cœur. Hein.
Alors quand vous avez une nouvelle histoire, quand vous allez faire soit une suite de Kirikou, soit adapter Azur et Aznar, le faire au cinéma, vous écrivez l'histoire, mais à qui vous le pitchez en premier? À des producteurs ou à des pitchouns?
Ni l'un ni l'autre. C'est moi qui écris, c'est moi qui décide. Je fais ce que je veux. Et je ne demande pas. J'écris, je réécris. Et quand je sens que c'est pas mal, j'ai très envie de le faire lire. Et bon, je le fais lire à un producteur qui m'intéresse. Et puis c'est tout. Je peux changer des choses d'après ce qu'on me dit si ce qu'on me dit fait sonner quelque chose dans ma tête qui me dit oui, ça rime à quelque chose et je comprends ça. Mais on peut me faire des milliers de conseils, mais ça glisse comme l'eau sur la plume d'un canard, ça me touche pas. Mais j'ai changé des petites choses quand plusieurs personnes me disent « là, je n'ai pas compris ». Alors là, c'est moi qui ai tort. Et je fais en sorte qu'on comprenne. Mais je pense que ce n'est pas une bonne idée de demander aux autres comment on écrit. Et moi, en tant que spectateur, je ne veux pas dire aux artistes, aux cinéastes ce que je veux. Je veux qu'ils me surprennent et qu'ils me charment, mais je ne veux pas leur dire. Je veux avoir la surprise.
Bon, là, on est entre nous. Vous pouvez l'avouer maintenant. Bon, Kirikou, il est petit, il est mignon, il est tout nu. Vous avez surfé sur la vague mignon des Pokémon, là.
Pas du tout. Parce que c'est sorti en même temps.
Ouais, c'était juste avant, c'était une question pour rigoler en fait.
Une question bête.
Voilà. Bon, et bien Michel Oslo, c'est le moment de se dire au revoir et puis de vous remercier beaucoup pour votre œuvre et pour le temps que vous nous avez accordé.
C'est volontiers que je l'ai fait.
Merci beaucoup. Heureusement qu'on n'avait pas d'autres questions, Thomas. Parce que terminé sur les Pokémon.
Oh bah écoute, on fait le poil gratté, on est FMR, bordel.
Donc nous avons eu l'immense plaisir de rencontrer Michel Oslo, c'était donc lors du Cartoon Forum à Toulouse, et il était là pour présenter le nouveau Kirikou que tu as vu et que tu vas chroniquer.
Non, je le vois juste après l'émission, comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc je le chroniquerai la semaine prochaine. Si, sois patient, Scarabée.
Oh, punaise. D'accord, ok, excusez-moi, est-ce qu'il y a une inversion de disque, hein. Je crois malheureusement qu'on va passer à autre chose de beaucoup moins joyeux. Thomas, qu'est-ce que tu aurais là qui nous fasse un petit peu peur?
Du suicide?
Ouais, super.
Non mais ça va,
c'est pas pour les gamins.
C'est un dessin animé, donc ça va.
C'est un dessin animé.
Ça y est, je viens de comprendre.
Vous avez raté votre vie, chez nous vous allez réussir votre mort. La famille Tuvache tient une échoppe qui se transmet de génération en génération.
Non, là tu... Non. Non, tu m'as pas fait le coup de me relire exactement le même texte?
Ben si, regarde, ça c'est l'affiche de la semaine dernière, et ça c'est ma chronique d'aujourd'hui.
D'accord.
Et donc, dans ma chronique d'aujourd'hui...
Attends, passe-moi les deux feuilles.
Et dans ma chronique d'aujourd'hui, il y a marqué « voir résumé sur l'autre fiche ».
Non mais je te jure, par transparence, t'as exactement la même chose, quoi. Non mais là, tu m'as déjà fait le coup avec...
Very Bad Trip.
Et heureusement qu'il y a des fans de l'émission qui sont plus au courant que toi. Hein.
Bon, alors c'est quoi cette fois-ci?
Alors, la famille Tuvache tient une échoppe qui se transmet de génération en génération. Un magasin proposant aux clients tous les moyens pour se suicider. Poison, corde pour se pendre, sabre et kimono pour se faire seppuku avec la petite croix rouge sur l'abdomen, champignons vénéneux, plantes et bébêtes mortelles, et j'en passe. Mishima, le père de famille, et sa femme Lucrèce sont très fiers de leurs enfants, Vincent et Marilyn. Mais le petit dernier, Alan, est la honte de la famille. Il aime, il chante la vie. Le petit ver dans la pomme va bien foutre la merde et remuer ce tranquille magasin. L'adaptation en film d'animation de Patrice Leconte. Je me suis fait chier, j'ai trouvé ça merdique. Mais je vais quand même faire la chronique. Alors, c'est une transposition en comédie musicale déjà. Donc, y a des morceaux chantés par des suicidaires. Alors, Patrice Leconte a les amis parce qu'il disait ça va un peu temporiser le côté un peu le malaise ambiant. Ouais, bon, du malaise en chanson, c'est quand même du malaise. Donc, voilà, surtout qu'il y en a 150 chansons à la minute. Donc, il y a certaines chansons même qui s'enchaînent sans respiration. Ça fait beaucoup.
J'ai une question, il s'est fait produire par Disney Channel ou quoi? Parce que ça ressemble vachement à la programmation.
Je sais pas, autant Disney avait fait des efforts sur le nombre de morceaux chantés dans ses derniers dessins animés avant que ça soit branche Pixar et tout. Ils avaient quand même fait des efforts, ils avaient réduit.
Il y avait une raison relativement simple, c'est qu'ils s'étaient rendu compte qu'ils pouvaient difficilement vendre plus de 3 singles par album. Donc, ils réduisaient, je crois que c'est pas plus de 8 morceaux chantés par film.
Non, parce que je te rappelle qu'ils ont sorti quand même Anna Montana. Le seul truc, c'est qu'en animation, quand tu prends Phineas et Ferb ou quand tu prends une autre série qui est diffusée sur Disney Channel, c'est exactement le même principe. T'as une chanson au minimum.
On parle pas de série, on parle long métrage.
Excusez-moi, j'avais complètement oublié que j'étais sur
Thomas.
Le
Alors, à part la surabondance de chansons, on a, bon, point de vue mise en scène, c'est le calme plat, il n'apporte strictement rien par rapport au livre, la mise en scène, donc c'est super plat, t'as pas vraiment de grands moments de cinéma où tu te dis, bah là, ça c'est le média cinéma qui va te proposer autre chose, l'adaptation donc ne propose rien de plus, t'as même parfois des voitures qui viennent vers le spectateur, c'est juste un agrandissement des calques. Donc ça fait une animation super cheap. Tu te dis au début, bon, pourquoi pas, c'est la signature visuelle du film. Au bout d'une heure et demie, tu te dis, non, c'est pas la signature visuelle du film, c'est super cheap tout court.
Attends, excuse-moi, tu l'as vu en 2D ou en 3D?
Alors c'est un film 2D qui avec de la 3D dedans, mais c'est un film 2D. Donc il n'y avait pas de séance 3D qui était proposée. À quelques exceptions près de scènes qui ont un peu plus de sel dans l'adaptation animée. Par exemple, il y a le striptease, enfin pas vraiment striptease. À la base, c'est le petit dernier offre. C'est de là que ça part en fait la partie en vrille de la famille. C'est que la fille Marilyn, du nom de Marilyn Monroe, le petit, au lieu de lui offrir des trucs morbides et tout, il lui offre un morceau de tissu élégant. Et en fait, elle apprend à découvrir son corps et par la sensualité, ce que va lui produire juste l'effleurement de ce tissu sur son corps. C'est un passage assez sexy dans le bouquin. C'est de là que ça va partir, c'est-à-dire qu'elle va s'autoriser à tomber amoureuse. Et donc, à partir de là, il y a la famille qui va suivre. Et c'est le point central du truc. Alors, le conte a proposé quelque chose de pas mal. Alors déjà, il a fait la fille assez rondelette. Et elle joue avec le tissu. Sauf que ce petit gougnafier d'Alan qui va offrir le tissu, en fait, il convoque tous ses petits potes. Et ils se mettent dehors. Et donc, la fille fait un striptease involontaire.
D'accord.
Donc voilà, ça, c'est plutôt une bonne idée par rapport au livre. J'avais noté autre chose, striptease. Moi, franchement, le film, il m'a fait regretter Tim Burton, quoi. Et pourtant, dans chaque émission ici, je passe mon temps à dénigrer Tim Burton en disant qu'il fait plus que de la merde depuis Sleepy Hollow. Eh ben non, il m'a fait regretter Tim Burton. Franchement, moi je trouve que même un Tim Burton aura des pâquerettes et en méforme, il aurait fait 100 fois mieux que Patrice Leconte. Franchement, l'impression que j'ai eue, c'est qu'on m'aurait raconté le livre avec des slides dans une conférence d'un amphithéâtre, ça aurait été pareil.
Oula.
Voilà, le haut niveau, implication et voilà. J'étais avec madame qui n'avait pas lu le bouquin depuis longtemps. Elle a apprécié parce que ça lui a remémoré le bouquin qu'elle avait apprécié. Moi, le bouquin, je l'avais fini 3 jours avant, une semaine avant. Voilà.
Donc, en gros, il vaut mieux prendre le bouquin que d'aller voir le film.
Ah ben oui, plutôt 2 fois qu'une. Franchement, non et non. Si vous êtes habitué à voir des films d'animation, là, vous voyez le film d'animation. Si vous trouvez que la patte graphique et le parti pris vaut le détour, alors là, je m'incline. Par contre, si vous êtes d'accord avec moi et que vous trouvez que franchement, c'est du foutage de gueule de mettre autant de pognon dans un film d'animation qui est animé de cette façon-là, qui est juste un court-métrage posté sur YouTube par un étudiant, franchement, moi, ça vaut pas la peine. Donc voilà, donc le magasin des suicides de Patrice Lecomte, et pourtant, j'aime bien Patrice Lecomte, hein. Moi, je suis méga fan de Ridicule, de Tango, de voilà, de tout ce qu'il a fait, le Marie la coiffeuse, il a fait des super films, mais... voilà, donc c'est
quand même pour une expérimentation en animation,
pour ma part, ouais. On va mentionner les acteurs qui font les voix, donc Bernard Allan et Isabelle Spade, donc c'est dans le couple Mishima et Lucrèce. Mmh. On a Pierre-François Martin Laval qui fait quelques voix, et ainsi qu'Éric Métayer. Et donc on va rappeler l'auteur du livre, donc il s'appelle Jean Tellet, et c'est disponible dans la collection Pocket. Voilà, donc le magasin des suicides. Voilà.
Je vais chercher une boîte à suicide comme à Futurama. Normalement, ça va être inventé depuis 2008, il me semble.
Oui. Je passe sur plein de détails dont j'avais parlé la semaine dernière. La fin complètement neutralisée. Tout a pris de l'ironie du. Bon, voilà, bref. Donc voilà, une grosse déception. Réécoutez ma chronique de la semaine dernière pour vous faire une idée sur le bouquin. Magasin des suicides. J'ai poche.
Et faute de du sport, on va faire une dernière coupure musicale.
Il a fauté ou ça ? Il a fauté ?
Bah, je crois que panne de réveil ce matin.
Faute de du sport, 15 partout.
Eh ben, je propose un sondage d'Aquarium par Pierre et Vincent, extrait de leur premier album Si j'étais toi.
Je tourne en rond. Quel poisson. On m'enfermait pour ma beauté. Ils ont mis mes couleurs exotiques à l'intérieur d'un bocal en plastique pour les caprices d'un fils unique qui s'est lassé en moins de deux et m'a oublié pour un autre jeu. Tu parles d'une vie. Privé de lagon, de liberté ranée, je me sens comme un poisson dans l'au-delà. Je me sens comme un poisson dans l'au-delà. Aquarium de restaurant, c'est bon pour l'image, dit le patron, de mettre en vitrine un aquarium. Les clients pensent qu'ici au moins on consomme du poisson frais. Tu parles d'une vie de poisson, de mon hublot. J'ai la vue sur le service. C'est un supplice pour moi de voir mes frères de mer se faire avoir, de finir comme ça dans une assiette pour une sombre histoire de recette. Avec des frites même pas bien cuites. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que tout s'arrête, qu'ils étouffent avec une arête. Aquatique d'une entreprise publique, j'ai atterri dans un bureau pour le design, la déco. En face de moi, un bureaucrate à cravate fait des maths. Sur son Mac, c'est d'un ennui. Tu parles d'une vie de poisson. De ma cellule, je vois une pendule qui se répète et qui me dit « Mon gars, t'es là pour perpète, non, c'est ça ?» Condamné à faire rêver un fonctionnaire,
la belle affaire. Tu parles d'une vie de poison, privée de lagon, de liberté radée. Je me sens comme un poisson dans l'au-delà. Je me sens comme un poisson dans l'au-delà. Je me sens comme un poisson dans l'au-delà. Je me sens comme un poisson dans l'au-delà.
Oh, c'était mignon. Un mauvais poisson qui se suicide. C'était joli, non?
Oui, on d'ailleurs, j'avais préparé une chute où j'allais me petit suicider, mais c'était pompé sur les nuls, alors bon, finalement, je l'ai pas dit.
Je sais pas, on verra ça autrement. Dans...
Sinon, je cherchais des jeux de mots avec Suisse, couteau suicidé, je sais pas, j'ai pas capté.
Corde suicidée. On peut aussi se Facebook suicider.
Ah oui.
Hello les Didi, MC les Didi qui est sur FMR la veille, et donc merci hein, pour ta pub gratuite sur le suppléant week-end. On pensera des fois se déloguer, mais ceci dit, c'est en toute amitié. Aujourd'hui, donc, en dédicace, si vous êtes sur Toulouse, sachez que, donc, à la librairie Terre de Légende, Tony Valente, qui dédicine Speed Angels, le premier tome de cette série s'appelle Jour J, est sorti chez Soleil, scénarisé par Didier Tarquin, colorisé par Pop, qu'on a eu en interview il y a un bail.
C'est le Jour J.
C'est aujourd'hui, oui, ça je l'avais dit tout à l'heure, ça fait 4 fois, merci. Donc c'est à la librairie Terre de Légende. Si vous êtes côté plutôt rive gauche, à la librairie des Petits Ruisseaux, où il y a littérature jeunesse et bande dessinée, à mon avis c'est plus littérature jeunesse, Céline Wagner pour Tangente, c'est aux éditions Les Ronds dans l'eau. Ce week-end, le Festival du Livre de Gaillac, l'entrée est gratuite d'ailleurs, est grand ouvert de 10h à 20h. Le thème, c'est Enquête 2, c'est donc avec un sacré paquet d'auteurs jeunesse, hein, puisqu'on reste dans le thème jeunesse aujourd'hui.
Il n'y a pas que les auteurs BD, il y a aussi de la littérature.
Donc Gudule, Anne-Isabelle Letouzé, Clément Lefebvre, Stéphane Sénéga, il y en a plein d'autres, des illustratrices, des illustrateurs, des conteurs et tout ça. Il y a aussi d'ailleurs des animations autour de lecture de contes. Il y a aussi un petit peu de théâtre, de cirque de rue et tout ça. C'est vraiment extrêmement sympathique. Quand on y était allé, on s'était bien éclaté. Et parmi les dessinateurs de bande dessinée, Jean-Baptiste, Christophe Beck, Pierre Dru, Nico Henrichon, Frisco Maliki. Oui, oui. Emmanuel Moineau, et Christophe Sénégas, encore une fois.
En tout cas,
du polar et tout,
voilà,
tout le reste.
Et puis en plus, dans un cadre vraiment très très beau de vieilles pierres. Et puis
et
en plus,
avec c'est... un temps magnifique aujourd'hui, allez-y, c'est à quoi ça? Même pas 45 minutes de Toulouse.
Voilà. Et puis Gaillac, c'est la ville de Bernard Laporte et de Vincent Moscato. Alors, bon, voilà, terre de rugby.
Exactement. Sachez donc que, album actuellement fermé, ils redeviennent BD Ciné, ils sont actuellement en travaux. La semaine prochaine, Terre de Légende fête ses 15 ans et en dédicace, il y aura Viravong pour son album sorti chez Caster, Blues du Nord, avec en plus une rencontre en soirée. Du 26 au 28 octobre, le festival de bande dessinée de Saint-Malo, c'est Quai des Bulles. Du 13 au 17 novembre, le 14e festival Extrême Cinéma sera autour des zoophiles. Mais je ne crois pas que ce soit pour les gosses. Et le 2 décembre, Toulouse Game Show sera au Parc des Expositions. Là aussi, peut-être que on pourrait très bien faire quelque chose autour. C'était le suppléant week-end. On arrive à la fin. Mon Dieu. Déjà. Et ma foi, il y en a qui nous écoutent en diagonale sur le podcast, qui sont allés un petit peu vite et je suis sûr qu'ils ont loupé plein de choses. Mais comme Thomas faisait principalement l'émission aujourd'hui, peut-être qu'il a pas tout noté.
Oh ben j'ai rien noté carrément. Juste il y avait Benoît qui nous a fait l'amitié de ne venir nous.
Vas-y Benoît, fais-nous le résumé.
Oula, le résumé. Ben on a eu du Kirikou, on a eu des notes.
Sans rire, c'est très dur.
Ah oula, ok, sérieux. Donc on a eu du Kirikou avec l'interview de.
De Monsieur Oslo, oui.
Monsieur Oslo, nous avons eu des notes, nous avons eu un petit psychopathe à vite fait. Nous avons eu.
Dans le micro, merci.
Ah, nous avons eu. Nous avons eu aussi deux magnifiques BD, l'un sur un renard et l'autre sur la mythologie grecque.
On s'est fait des bastons de manga en photo.
Ouais, ouais, ça le baston de manga, faudra qu'on le publie.
À mon avis, on va le faire demain. Voilà. On verra ça.
Si on n'est pas trop fatigué avant la sieste, cet après-midi.
Tu me l'envoies et puis je mettrai en ligne demain. Ceci dit, si vous avez manqué tout ça, heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission. Si vous écoutez en podcast, c'est très simple, vous appuyez sur début. Sinon, vous allez télécharger le podcast sur le site supplementweekend.fr. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi, à cette même adresse, laisser vos commentaires, poser vos questions. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr sans accent ni tiret. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz en modulation de fréquence et en stéréo. Et nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM. Et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, je ne sais pas de quoi il sera question, mais en tout cas, il en sera question.
Bah, il sera question de Kirikou, hein.
Encore.
Il va arriver à le
voir.
Non,
mais il me fait des deux en un, tu vois, maintenant. C'est-à-dire, il fait une chronique et ensuite il reprend la chronique copier-coller, il réimprime, il se fait pas chier et tout.
Ah, mais
voilà.
C'est les feuilletonnages.
Oh, c'est magnifique, ouais, merci. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, hein, tant qu'on y est. Et en souhaitant du sport, de bons vœux de repos. Voilà. Est-ce qu'on va aller le faire chier, là?
Non.
Ouais, bon. Non. Et je vous laisse avec la programmation musicale avec Mané de Lynxen.